Bonjour Tiffaine, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, et parce que les séries sont devenues l'un des nouveaux lieux du romanesque, nous nous penchons cette semaine sur la série américaine Mad Men et sur son créateur Matthew Weiner. C'est l'un des génériques les plus célèbres de la télévision. On y voit la silhouette d'un homme en costume qui tombe entre des gratte-ciel stylisés où se reflètent des panneaux publicitaires. Une mise en image du cauchemar de Don Draper, ce personnage qui s'est hissé tout en haut du rêve américain et autour de qui tout s'effondre alors même qu'il paraît tout contrôler. Nous allons regarder cet objet télévisuel qu'est Mad Men sous de multiples angles jusqu'à jeudi, à commencer par demain, où il sera notamment question de design et d'art de vivre dans cette série. Ce sera avec l'écrivaine Nathalie Azoulay. Mercredi, nous recevrons Ariane Hudelay qui revient des États-Unis où elle a pu étudier les archives de la série. Enfin jeudi, nous ferons le lien entre Mad Men, la ville de New York, la publicité et la postmodernité. Ce sera avec Fabio La Rocca en première partie d'une émission que nous poursuivrons avec Romain Huret, lequel nous parlera de la place des femmes dans l'Amérique des années 60, telle que l'a représentée Matthew Weiner. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour esquisser un portrait de Matthew Weiner et parler de la série qui l'a rendu célèbre, nous sommes en duplex de Caen avec vous, Emmanuel Burdeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma, vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et vous êtes aujourd'hui membre de la rédaction de Mediapart. Et il y a quelques mois, vous vous êtes intéressé à cette série Mad Men diffusée sur AMC entre 2007 et 2015. Vous lui avez consacré le séminaire politique d'une série, L'Amérique de Mad Men. C'était au début de l'année 2017 et c'était au musée du Jeu de Paume. Vous aviez invité différents universitaires et Matthew Weiner lui-même, qui était donc venu pour clore ce séminaire. Alors j'aimerais qu'on commence d'abord cette émission en parlant de l'homme que vous avez pu côtoyer à cette occasion. Quelle impression vous a-t-il faite alors qu'il est arrivé avec la diffusion de la 7e et dernière saison de Mad Men? C'était en 2015, un sommet de sa carrière et peut-être aussi une sorte de sommet du rêve américain, un peu comme son personnage de Don Draper lui-même. Alors quel portrait pourriez-vous faire de lui aujourd'hui, Emmanuel Burdeau?
J'étais un peu inquiet avant de le rencontrer parce que, bon, non seulement en raison de sa célébrité, de sa stature, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui, enfin, n'avait pas très bonne réputation.
C'est-à-dire?
On disait de lui que c'était quelqu'un d'extrêmement ambitieux, arriviste. Bon, il est bien connu, par exemple, que Mad Men est la seule série au générique de laquelle le nom du showrunner apparaît comme étant le co-auteur des scénarios d'à peu près 60 ou 55 épisodes sur 70. Donc c'est quelqu'un qui est très soucieux de son image et que son nom soit connu et qu'il soit partout, voilà.
Mais en même temps, il contrôlait tout, donc dans un sens, peut-être qu'il avait raison de co-signer tout.
Bien sûr, mais je crois que le fait qu'un showrunner co-signe le scénario, c'est à peu près le cas de tous, mais tous n'exigent pas que leur nom apparaisse comme ça au générique. Bon, j'avais lu dans un livre une anecdote qui racontait qu'il avait croisé quelqu'un, je sais plus quoi, dans un dîner, et qu'en le quittant, il lui avait dit « Ah ben, on se voit au Emmy Awards la semaine prochaine », et puis il avait ajouté « Ah, j'avais oublié que tu n'es pas nominé ».
Ah oui.
Voilà. Donc, mais quand il est venu, et c'est, je suppose que c'est, enfin, de mon expérience, c'est souvent le cas avec les Américains, il s'est montré... On disait aussi qu'il n'était pas forcément très bavard en entretien. Il s'est montré avec nous, alors que pour le faire venir, l'équipe du Jeu de Paume menée par Marta Ponsa avait échangé avec son équipe, vraiment sans plaisanter, je pense, plus de 1000 emails. Lorsqu'il est venu, il a été extrêmement simple, d'une très grande générosité, très drôle. Très, très, très brillant. Je pense aussi que ça coïncidait à un moment pour lui de repos, puisqu'il était, et de détente, si on peut dire, puisque la gloire de Mad Men était faite. Et il était en train de commencer à travailler à la mini-série qui est actuellement diffusée sur Amazon, qui s'appelle The Romanoffs. Et je pense que ça l'intéressait aussi pour cette raison d'être à Paris.
Parce que le premier épisode des Romanoffs se passe précisément à Paris.
Voilà. Et il nous a raconté, entre autres choses, je pense que ça résume bien le personnage, les tractations délicates qui l'avaient opposé à la production. Je crois que c'est entre la cinquième et la sixième saison, je ne vais pas dire de bêtises. C'est-à-dire qu'en gros, il trouvait que la production ne le soutenait pas assez. Il demandait davantage et la production, de son côté, avait fait courir le bruit que ses exigences étaient faramineuses et avait même diffusé dans la presse un chiffre absolument délirant. Chiffre que lui dit faux, mais pour bien montrer quel était le rapport de force qu'il voulait imposer entre lui, la production et lui, il avait dit « Ok, vous prétendez que c'est ce que je demande, eh bien désormais c'est ce que je vais en effet exiger ». Et c'est ce qu'il a obtenu. Donc je pense que c'est quelqu'un d'assez dur. Et les choses qu'il écrit, à commencer par Mad Men, témoignent largement du fait qu'il se fait une représentation, une conception, une pratique des rapports humains et d'abord des rapports professionnels qui ne relèvent pas de la blague, quoi.
Mmh. Alors revenons peut-être un petit peu, Emmanuel Burdeau, sur ce que vous savez de sa biographie. D'abord pour dire qu'il est né en 1965, précisément dans ces années 60, où il situe Mad Men, et ça a sans doute quelque chose à voir.
Oh oui, ça a tout à fait à voir, évidemment. Il lui est arrivé de dire que s'il s'identifiait à un personnage, et si le point de vue d'un des personnages pouvait être comparé au sien ou être dit le sien, c'était celui de la petite fille du ménage Draper, j'ai oublié son prénom, pardon, qui grandit progressivement. C'est évidemment, ça a été très important. Je pense que si c'est quelqu'un qui est lié aux années 60 par sa jeunesse, mais aussi par des raisons, disons, des motifs plus directement culturels, évidemment la publicité, on va en parler, la télévision, le cinéma, le cinéma moderne des années 60, en coulisses de notre rencontre, on avait discuté assez longuement des Bonnes Femmes de Claude Chabrol, qui est un film de 1960 et qui est une des inspirations majeures de Mad Men. Bon, ensuite, je connais pas dans le détail son parcours, mais je sais deux choses assez, il me semble assez déterminantes. D'une part, qu'il appartient à une famille juive. Chose qui joue un grand rôle dans Mad Men, enfin de manière à la fois intermittente mais quand même décisive.
Il y a quelques personnages en fait, notamment cette Rachel Menkel, je crois, qui est juive et qui a un grand magasin. Et durant la première saison, le personnage de Don Draper a une liaison avec elle, et puis aussi il y a de l'antisémitisme dans cette série, et c'est peut-être ça que vous vouliez souligner.
Oui. D'une manière générale, et ça prête beaucoup à discussion, c'est une série c'est une série qui est quand même une série politique, donc dans laquelle le rapport aux minorités, évidemment les années 60 sont pas rien là-dedans, est un des thèmes très importants. Il y a évidemment cette Rachel Menken avec qui il a plus qu'une aventure, parce qu'elle restera, je pense, un des regrets du personnage. Et puis il y a l'un des dessinateurs aussi, c'est de manière plus subtile et peut-être plus profonde, dont on comprend progressivement, un dessinateur qui arrive plus tard dans la série, qui vit avec son père, que son père est immigré juif et que voilà, et que il est attaché à, disons, à une provenance culturelle qui sont très importantes pour Matthew Weiner. Les deux autres choses que je voulais dire en passant, bon, c'est que bien sûr les débuts de Matthew Weiner, ce qui lui a permis de d'émerger et de faire Mad Men, c'est Les Sopranos. Mm-hmm. Il s'en est jamais caché, il a toujours dit d'ailleurs que c'est là qu'il avait à peu près tout appris.
Vous étiez venu nous parler des Sopranos d'ailleurs, voilà. Il y a à peu près un an dans cette même émission.
Ouais. Auprès de David Chase, et puis il est d'une famille assez, de la bonne bourgeoisie, en tout cas une famille qui a réussi, parce que son père était un médecin, un chirurgien, je crois, assez avec du succès, et que ça a toujours été très compliqué pour Matthew Weiner de grandir dans l'ombre de son père. On raconte même que lorsqu'il donnait des entretiens, alors que Mad Men existait, il demandait à ce que surtout il ne soit pas dit qu'il fume. Mmh. Parce qu'il voulait pas que, ça, que ses parents le sachent.
D'accord. Alors c'est à 35 ans, je crois, qu'il a eu le désir d'écrire cette histoire de Mad Men, alors qu'il a raconté aussi que c'était à ce moment-là un homme apparemment comblé, en tout cas dans le travail, en amour, en famille aussi, puisqu'il avait quatre enfants, il a toujours quatre enfants. Mais rien ne suffisait à satisfaire, dit-il, le gamin de 8 ans qui vivait en moi. Il l'a dit à un entretien donné à Marjolaine Jarry, est-ce que ça résonne en vous d'une manière ou d'une autre, cette espèce de nostalgie de l'enfance, cette espèce d'insatisfaction de l'homme de 35 ans qui se met à écrire Mad Men ?
L'insatisfaction, oui, absolument. La description que vous venez de rapporter, de relater, c'est évidemment très précise, assez précisément celle de Don Draper, c'est-à-dire quelqu'un qui il va y avoir certains flashbacks dans la série sur ses débuts, mais enfin la série le prend quand même déjà au début de la saison 1 à un stade déjà assez avancé de sa réussite. Il est marié, il a deux enfants, on comprend qu'il a de très nombreuses maîtresses. On comprend surtout assez vite en effet qu'il est très insatisfait et que cette insatisfaction elle est pas simplement celle où la série est forte. Elle n'est pas simplement d'ordre, disons, psychologique ou existentiel. Elle est ancrée même dans l'histoire du personnage, puisque ce Don Draper, à proprement parler, n'existe pas. Mm-hmm. Don Draper n'est qu'un nom d'emprunt. Don Draper est l'identité d'un soldat de la guerre de Corée, mort à ses côtés, identité que ce type qui s'appelle Dick a décidé d'usurper parce que en fait c'est quelqu'un qui vient d'une extraction très basse et même infâme puisqu'il est littéralement un enfant de putain.
Mm-hmm. Il a été élevé dans un bordel.
Élevé dans un bordel et que à partir du moment où il décide de devenir Don Draper que véritablement sa réussite se construit, mais il sera régulièrement à la fois par des choses qui interviennent dans sa vie, mais surtout par, je dirais, par lui-même, rappeler au fait qu'il n'est personne. Mm-hmm. Et que sa réussite, comme le montre le générique, encore qu'il y ait beaucoup de lectures concurrentes possibles de ce générique, que comme le montre ce générique, c'est un homme qui repose sur du vide, tout simplement.
Alors, vous avez dit que Matthew Weiner ressemblait au personnage de la fille de la famille Draper. On peut se demander s'il ressemble aussi à Don Draper lui-même, voire même à Peggy Olson. Je crois qu'il a dit qu'il avait écrit un peu tous les personnages à la première personne du singulier.
Oui, bon, moi, Matthew Weiner, je peux difficilement quand même en parler de façon très personnelle. J'ai passé un moment avec lui qui était, un moment assez exceptionnel, mais je peux pas m'enorgueillir de le connaître personnellement. Ce qui est vrai, en revanche, et là où je suis évidemment d'accord avec vous, c'est que la série, elle est, comme les grandes séries, mais peut-être en effet un peu plus un peu plus celle-ci. C'est pas simplement la trajectoire de Don Draper, c'est la trajectoire d'un certain nombre de personnages. Et par exemple, le personnage de Peggy Olson, qui est donc cette jeune femme qui, la première, va dans l'agence de publicité obtenir un poste qui sera pas simplement de secrétariat. Elle emblématise, elle représente, disons, un début d'émancipation féminine qui apparaît peut-être plus particulièrement dans les années 60. Elle est une autre figure. Un peu, sans doute, un peu moins sombre de l'ambition, hein, une figure plus positive, quoi, un peu moins rapace, un peu moins vorace, un peu moins mélancolique que celle de Don Draper. C'est un personnage plus positif que celui de Don Draper, parce qu'il faut quand même bien voir que dans Mad Men, grosso modo, les uns et les autres sont quand même assez difficilement aimables. Alors évidemment, Don Draper, c'est un coureur de jupons, il a une assurance assez écrasante, mais il est quand même pas très sympathique.
Vous dites même que le mafieux Tony Soprano, finalement, est plus facile à aimer que Don Draper.
En tout cas, c'est mon témoignage personnel, oui. Je trouve que Tony, il a une vitalité. Évidemment, Don Draper ne tue pas, mais il a une vitalité et il, d'une certaine façon, il se confie plus facilement, alors que le Don Draper...
Ne va pas chez le psy, lui.
Ne va pas chez le psy, et c'est sa douleur. Alors, je ne sais pas si c'est celle de Matthew Weiner, mais sa douleur, c'est que c'est quelqu'un qui est incapable de se confier, sans doute parce qu'il se dit que s'il commence à faire état de ses sentiments, il va falloir qu'il aille jusqu'au bout, et aller jusqu'au bout, c'est révéler le poteau rose, c'est-à-dire que Don Draper n'existe pas et n'est que l'usurpation de quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà, donc il passe son temps il est vraiment fermé à double et même à triple tour. Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Emmanuel Burdeau, sur la genèse de Mad Men ? Donc, c'est une série qu'il avait pensée sans pouvoir finalement la vendre à qui que ce soit. Il a fallu qu'il passe donc par les Sopranos, qu'il devienne finalement le bras droit de David Chase pour réussir à vendre cette série qui est quand même extrêmement particulière. Et on se demande même comment des médias, comment un producteur a pu faire confiance à une série qui explorait, je cite, « ce que nous ressentons intimement », ce qui n'est évidemment pas très facile à vendre.
Non, alors, sur la genèse du point de vue de Matthew Weiner, peut-être pas grand-chose. En revanche, ce que je sais, et qui me semble pas inintéressant, c'est qu'en fait, Mad Men appartient, si l'on peut dire, à la deuxième époque de l'âge d'or des séries, c'est-à-dire c'est une série qui vient immédiatement après Les Sopranos. En vérité, d'ailleurs, elle a commencé alors que Les Sopranos n'étaient pas tout à fait achevés. Mmh. Et donc, c'est le moment où d'autres opérateurs ou d'autres acteurs commencent à entrer dans le territoire des séries ambitieuses. HBO et Les Sopranos, ça a toujours été le cas. Et là, c'est AMC. Et la productrice de Mad Men venait à peine d'arriver dans les bureaux d'AMC, nous a-t-elle raconté, qu'elle a reçu sur son bureau, évidemment, un certain nombre de projets, parmi lesquels il y avait Mad Men et Breaking Bad. Mm-hmm. Et que c'est dans une logique consistant à se dire, nous, AMC, on va pas continuer comme ça, simplement montrer, à simplement faire tourner notre catalogue de films, mais on va entrer dans la production d'objets de prestige, que ces deux séries qui sont très différentes ont été produites. Une autre caractéristique pour moi, je pense qu'on va en reparler de Mad Men, c'est que sans doute en effet, vous l'avez dit davantage que Les Sopranos, elle est à la première personne, et je dirais autre chose aussi qui sans doute n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu Les Sopranos, c'est que c'est une série qui, visuellement, au point de vue de la mise en scène et de la direction artistique, et au point de vue déjà de son cadre historique, décide de rivaliser directement avec le cinéma. Les Sopranos parlaient du cinéma, mais au second degré, et ne se voyaient pas comme un film. Mad Men, ça se veut l'équivalent aujourd'hui. Alors évidemment, c'est très compliqué. L'équivalent aujourd'hui des grands mélodrames américains des années 50 et début des années 60, c'est-à-dire, un peu classiquement, je dirais, les mélodrames de Douglas Sirk, quoi.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de la série Mad Men et de son créateur Matthew Weiner. Alors cette musique, Babylone de Don McLean, interprétée ici par David Carbonara, qui a fait quasiment toute la bande originale de Mad Men. On peut dire, Emmanuel Burdeau, que par sa nostalgie, par une certaine pureté aussi, reflète un peu l'atmosphère générale de la série. Elle figure d'ailleurs au moment d'un flashback sur la vie passée de Don Draper, donc elle est vraiment dans la série. Et c'est une série qui est une série d'atmosphère, vous commenciez déjà un petit peu à le dire, où on est dans quelque chose qui est assez peu tangible, mais qui est toujours perceptible. Comment est-ce que vous expliquez cette atmosphère si particulière, qui est un petit peu le projet, je crois, de Matthew Weiner?
Si, mais je crois qu'à l'instant, vous parliez de mélancolie. Moi, je pense qu'il y a peut-être cette atmosphère si particulière. Elle tient au fait qu'il y a deux façons de voir la série, et je pense aussi que ces deux façons, elles peuvent aussi partager l'enthousiasme qu'on a ou pas pour la série, même si c'est une série qui est extrêmement aimée. Mais en effet, il y a quelque chose comme l'évocation nostalgique d'un monde disparu, c'est-à-dire disparu aussi bien du point de vue des personnages que du point de vue de Matthew Weiner, c'est-à-dire en tout cas de son point de vue à lui. Ces années 60, où les hommes portaient beau, où les femmes encore plus.
D'ailleurs, vous dites qu'on peut le comparer à James Bond, parce que finalement, Don Draper, quand on pense à lui, on voit immédiatement son look, on voit immédiatement la voiture qu'il conduit, et il y a peu de personnages aussi forts.
Bah, disons que c'est là pour moi les deux visions. C'est-à-dire que soit on considère que Mad Men est l'expression d'une nostalgie à l'égard de ce monde, soit on considère que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit de nous dire que ce monde devait disparaître parce que ce monde, même en dépit de sa beauté, était un monde de machisme, de racisme, d'antisémitisme, et que heureusement que ce monde n'a plus cours parce que s'il était demeuré tel, on continuerait à vivre un cauchemar. Et je pense que la série est traversée sans cesse par cette tension. On l'a beaucoup lu comme étant une série qui consacrée vraiment aux années 60 comme étant un moment de bascule, mais en même temps cette bascule, en tout cas justement au point de vue de l'atmosphère, elle est jamais claire. Certes, Don Draper, c'est vraiment le macho de base tel qu'on peut le trouver détestable, qui considère que les femmes font partie de ses utilités, voilà, qui veut s'approprier toute la réussite de son entreprise, etc., qui ne pense qu'à lui. Mais d'un autre côté, bon, c'est quand même Don Draper, c'est-à-dire John Hamm, c'est quand même un type d'une très très grande beauté physique, qui d'un regard peut fasciner les gens autour de lui et donc les spectateurs. C'est toujours facile de faire valoir comme ça une polarité, mais la série, elle va et vient sans cesse entre les deux, et sans doute qu'en dernière instance, c'est ce qui fait sa force. Si elle s'était contentée d'être une sorte de charge contre l'ancien monde et de défense du nouveau, ça aurait été un peu simple. Voilà, et c'est l'atmosphère, elle est là.
C'est peut-être pas qu'une défense aussi du nouveau monde et une charge de l'ancien, parce que Matthew Weiner a dit que en 1960, au moins, on était plus dans l'intellectualisation des choses, plus dans la subversion. La série le montre aussi, et il dit qu'aujourd'hui, finalement, la société américaine, peut-être en particulier, mais française aussi sans doute, est davantage anti-intellectuelle, où les mots art et politique, dit-il, sont absolument interdit, puisque ennemi du commerce, il l'a dit dans le journal Le Monde en 2011. Donc il y a aussi cette idée que la série nous parle d'aujourd'hui et pas forcément en mettant en valeur l'époque actuelle, Emmanuel Burdeau.
Oui, c'est très juste, et c'est sans doute l'une des formes de cette, le mot est un peu facile, mais de cette nostalgie ou de cette mélancolie dont on parlait à l'instant. Et en effet, on peut lire la série au passé, mais comme vous le dites, on peut la lire au présent. Et nombreux ont été ceux qui ont considéré que, au fond, ce que cette série nous avait permis de voir un peu en avant, c'était l'Amérique de Trump. Comme si, lecture facile, mais quand même, comme si, au fond, alors même qu'elle n'a pas coïncidé ou très peu, ou n'a pas coïncidé avec l'Amérique de Trump, enfin, elle s'est finie juste au moment où Trump est arrivé, comme si l'Amérique de Trump, c'était le retour. Ou la permanence, en tout cas, sinon, la permanence de ce monde arriéré, parce que c'est quand même un monde arriéré.
Avec les beatniks en moins et la contre-culture moins forte, peut-être.
Oui, alors il faut bien dire que à chaque fois que la série essaye de passer de l'autre côté, de passer vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire de nous montrer les beatniks, la contre-culture, les manifestations pour les droits civiques, etc., toutes ces choses qui ont traversé les années 60. À mon sens, elle est moins réussie. C'est-à-dire que quoi qu'on en pense, Matthew Weiner et ses scénaristes, ses metteurs en scène, etc., sont plus à l'aise dans le velours et la draperie, c'est le cas de le dire, du mélodrame, que lorsqu'il faut passer vraiment dans le monde réel. Même si, il y a des moments que je trouve très beaux, mais la série, à mon sens, ne va pas plus loin lorsqu'on s'aperçoit vraiment à quel point, et de même que Tony Soprano, à quel point Don Draper est une survivance totalement archaïque, anachronique dans ce monde.
Alors là où ils sont très forts, là où Matthew Weiner est très fort, c'est quand il nous montre évidemment l'industrie de la publicité. Je vous propose d'écouter justement une leçon de publicité délivrée par Don Draper à l'un de ses clients, un industriel du tabac.
The Federal Trade Commission and Reader's Digest have done you a favor. They've let you know that any ad that brings up the concept of cigarettes and health together, well, it's just going to make people think of cancer.
Yes, and we're grateful to them.
But what Lee Jr. said is right.
Si vous ne pouvez plus parler de santé, vos concurrents non plus.
Donc, on est un tas de gogos. On ne peut plus dire quoi que ce soit pour vendre nos cigarettes.
Pas tout à fait. C'est le plus grand tournant dans l'histoire de la publicité depuis l'invention des céréales. Nous avons 6 fabricants identiques qui vendent des produits identiques. On peut dire n'importe quoi. Elles sont faites comment, vos cigarettes ?
J'en sais rien.
Tu me fais honte. On plante des graines de tabac traitées contre les insectes sous le beau soleil de Caroline du Nord. On récolte, on sèche les feuilles, on les grille.
Très bien, ça.
Et puis,
on y va. Lucky Strike, on les grille.
Mais le tabac des autres fabricants est grillé aussi ?
Non. Le tabac des autres fabricants est cancérigène. Celui de Lucky Strike est grillé.
Bien, messieurs, c'est pas la peine que je vous dise à quoi vous venez d'assister.
J'avoue que j'ai encore des doutes.
Messieurs, la publicité repose sur une seule chose. Le bonheur. Et le vrai bonheur, vous savez ce que c'est ? Ça peut être l'odeur d'une voiture neuve. Ou le fait de savoir qu'on n'a plus à avoir peur. C'est un panneau au bord de la route qui vous rassure, qui vous donne la paix et la confiance, qui vous dit que quoi que vous fassiez, tout ira bien. Vous n'avez rien à craindre.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors c'est une leçon de publicité, c'est peut-être aussi une leçon de cynisme, Emmanuel Burdeau.
Bah, alors si mes souvenirs sont bons, c'est le premier épisode de la série. Donc c'est la première occasion pour le spectateur de faire l'expérience du bagou de Don Draper. Et comme souvent dans la série, il s'agit de s'inspirer directement et indirectement de campagnes publicitaires réelles et de problèmes qui se sont réellement posés. Évidemment, comment faire la publicité des cigarettes alors que on commence par savoir que quand même c'est dangereux. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment ce qui est intéressant dans Mad Men, c'est que la publicité, elle intervient presque toujours dans des scènes comme celle-là. C'est-à-dire que c'est la publicité comme technique de persuasion, mais comme technique de persuasion moins de l'acheteur que des marques. Moi, j'ai toujours été extrêmement frappé par le fait que dès le moment où une scène comme celle-ci a eu lieu, d'une certaine façon, la série ne va pas plus loin. On ne verra jamais un consommateur achetant un produit, disons, suite à une publicité conçue par Don Draper ou par, disons, les gens avec qui il travaille.
On ne voit même pas beaucoup d'affiches, d'ailleurs. On ne voit même pas tellement de produits dans cette série.
Absolument. C'est très curieux. Ce qui intéresse Mad Men dans la publicité, c'est presque toujours en rapport avec le personnage de Don Draper et pas en rapport avec, la population américaine. Bon, voilà. Ce qui est un peu étonnant quand on fait une série sur la publicité. Bon.
Vous pouvez en conclure alors, quelque chose ou pas?
Alors, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, l'évidence, c'est qu'il s'agit de nous dire au moins une chose, c'est que c'est Don Draper le produit publicitaire numéro un, puisque celui qui nous dit ce qu'il est, alors qu'il est autre chose, ou qui nous dit ce qu'il est au gré de ses envies, c'est lui, puisque Don Draper, une fois de plus, n'existe pas. Bon. Je pense aussi que, pour moi, c'est une des énigmes de la série, qui d'ailleurs, elle-même, flirte très volontiers, peut-être un peu trop même, avec une esthétique de type publicitaire. On sait très bien, c'est d'ailleurs le risque numéro un d'une série télévisée lorsqu'elle veut imiter, disons, le look cinématographique, c'est précisément qu'elle ne donne lieu que à du look. C'est-à-dire qu'elle soit publicitaire.
Il y a une sorte d'hyper-réalisme dans l'image de Mad Men qui donne un côté factice, mais c'est peut-être précisément parce que le sujet, enfin l'un des sujets de cette série, c'est la publicité, c'est l'image parfaite, l'image retouchée, vous ne croyez pas ?
Si, absolument. De toute façon, c'est une série qui est empêtrée dans ses contradictions et moi ça ne me dérange pas du tout, ne cherche pas du tout à s'en sortir. Mais si on regarde les bureaux, les différents bureaux par lesquels on passe, la représentation de ces bureaux est en effet hyper réaliste comme vous le dites, mais aussi de l'ordre du cliché, c'est-à-dire ce sont des cliquetis de machines à écrire, des cohortes de secrétaires en robe moulante et qui fument leurs cigarettes, des gens qui entrent et qui sortent d'un ascenseur. C'est une représentation stéréotypée et qui se présente comme étant stéréotypée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas c'est une série qui ne cherche pas visuellement, en tout cas, bien qu'elle y prétende sans cesse au point de vue narratif, à crever la surface. Mm-hmm. C'est très curieux.
C'est peut-être justement la surface qui intéresse Matthew Weiner.
Bien sûr. Et c'est une série, d'ailleurs, de ce point de vue-là, qui n'aura cessé de revenir de façon systématique et presque excessive au visage de Don Draper. C'est-à-dire ce visage toujours impénétrable. Et toujours impénétrable, qu'on ne pénétrera pas.
Emmanuel Burdeau, vous restez avec nous. On va aller voir pendant quelques minutes ce qui s'écrit du côté des revues littéraires avec aujourd'hui Philippe Roger pour la revue Critique.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Philippe Roger, vous êtes donc directeur de la revue Critique. Êtes-vous également à vos moments perdus, ou pas perdus d'ailleurs, spectateur de la série Mad Men ?
Pas tellement, je vous l'avoue, mais c'est vrai que je trouve certaines séries amusantes. Je fais une petite cure quand je suis aux États-Unis, mais des cures limitées, vous voyez, je pense que la vie est trop courte pour les séries. Alors dans le cas de Mad Men, je suis un peu embarrassé parce que c'est vraiment pas mes années 60. Mais je crois que Emmanuel Burdeau a une formule tout à fait éclairante quand il parle du velours du mélodrame. Alors j'aime pas beaucoup le velours et pas du tout le mélodrame.
Bon, d'accord, ça fait beaucoup. Alors vous nous parlez dans le numéro de Critique en ce moment en librairie, plutôt des années 50 hein, justement, et de Bazin. Pourquoi en parler aujourd'hui ?
Nous saluons à Critique hein, ce qui est un véritable événement, c'est-à-dire la parution cette semaine même aux éditions Macula des écrits complets de Bazin, édité par Hervé Joubert-Laurencin. Il a travaillé pendant 25 ans à cette somme, elle était donc très attendue. Le prestige de Bazin comme critique cinématographique, on parle même parfois de lui comme fondateur de la critique cinématographique, bon, n'est pas à dire, il est immense, il est international. Je reviens d'ailleurs du Virginia Film Festival qui s'est clos hier à Charlottesville, en Virginie, dans lequel intervenait Antoine Debecq, un des auteurs de notre numéro, comme Emmanuel Burdeau, que je salue. L'aura de Bazin est manifeste dans de telles rencontres, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, comme le montre un autre de nos articles de Marco Grossoli, comme son nom l'indique, italien, dans son article sur Bazin et ses lecteurs. Alors le paradoxe, c'est qu'il a fallu attendre l'année 2018, 60 ans après sa mort, pour disposer de tout Bazin. Et cette publication met donc fin à une sorte de situation paradoxale et nous permet de redécouvrir Bazin.
Alors est-ce qu'il était précisément un petit peu oublié jusque dans son pays d'origine, la France ?
Alors oublié, certainement pas, mais alors je dirais presque trop consacré et un peu embaumé. On a fait de lui, la formule est de Jean Narboni qui nous a accordé un bel entretien, je cite, un saint homme ascétique de la critique. Et en France, en somme, comme on le fait souvent, on a casé Bazin. On l'a réduit à un cliché commode, hein, Bazin, père de la nouvelle vague. Au reste, il vaudrait mieux dire qu'il en a été le parrain ou qu'il s'est fait le complice des futurs cinéastes de la nouvelle vague. Bazin, c'est un peu leur grand frère, si on peut dire. C'est lui qui a ouvert les cahiers du cinéma à ces jeunes Turcs dont il a tout de suite aimé leur énergie, leur talent et même le tranchant, Truffaut, Rivette, Godard, les autres, etc. Et Bazin, on le sait, a été emporté par une leucémie en 1958. Il avait 40 ans. C'est dire aussi que les 400 coups de Truffaut sortent 3 ans plus tard, le film lui est dédié, Bazin ne l'a pas vu, il n'a pas vu triompher la nouvelle vague. Et comme on regrette les articles qu'il aurait pu consacrer à la nouvelle vague et qui n'auraient pas tous été forcément favorables, comme on regrette aussi d'avoir été privé trop tôt, plus généralement, de ce regard d'acier, comme l'écrit dans un bel article Patricia Lombardo, qui n'empêchait nullement Bazin de, comme elle l'écrit encore, capter l'émotion déchirante des images.
Bon, au moins, on peut lire au moins tous ses articles, tous ceux qu'il a eu le temps d'écrire. Donc, c'est un Hervé Bazin complet. Mais est-ce qu'on y trouve aussi du nouveau, Philippe Roger?
Pour le dire avec Marc Cerisuello, qui a coordonné notre numéro, on peut dire d'abord que les écrits complets, c'est 3 volumes, 3 kilos, 800 textes. Nous ne disposions que de 300 textes dans les volumes existants jusque-là. Est-ce que Bazin en sort transformé? Non, au sens où cette masse de textes ne défait pas la cohérence d'une pensée. Elle la confirme plutôt, mais enrichie, oui. Alors, notre compréhension de Bazin est enrichie considérablement. Un seul exemple pour finir, le rapport singulier, passionnant, que Bazin instaure avec la télévision dans les dernières années de sa vie, au moment où il est confiné dans son domicile par la maladie, et qui est analysé dans notre numéro, justement, par Emmanuel Bourdeau. C'est là un autre Bazin que nous découvrons, dont le champ d'attention ne se limite ni au cinéma, ni à la cinéphilie. Et c'est pour mieux marquer chez lui cette ouverture que ce numéro se conclut par un article de Jean-Louis Janel, article qui lui ne porte pas sur Bazin mais sur l'essai que Patrice Blouin vient de consacrer au champ de l'audiovisuel l'an dernier. L'audiovisuel, je cite, qui affleure et dont le cinéma n'est plus qu'une province. C'est une formule de Malraux, pas de Bazin, mais Bazin aurait peut-être pu y souscrire. Et nous avons pensé tout simplement que c'était pas rendre justice à Bazin que de le figer dans une douteuse photo de famille en père putatif de la nouvelle vague.
Voilà donc ce que vous n'avez pas fait dans la revue critique à découvrir en librairie. Merci beaucoup, à bientôt Philippe. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au premier jour d'une série consacrée, une fois n'est pas coutume, à cette grande fresque télévisée qui est Mad Men, créée par Matthew Wiener. Je vous propose d'écouter, pour repartir dans cette deuxième partie d'émission, l'une des scènes les plus célèbres de cette série, celle du carrousel à diapositives.
Technology is a glittering lure. But there's the rare occasion when the public can be engaged on a level beyond flash if they have a sentimental bond with the product. My first job.
Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était nouveau. Cette idée-là démange les gens. Et vous, vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit. Comme une sorte de baume calmant. Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit. La nostalgie. C'est subtil, mais très puissant. Ma jolie. Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement une blessure ancienne qui fait toujours mal. C'est un pincement au cœur, teinté de regret, et bien plus puissant qu'un simple souvenir. Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps. D'une pression, on recule, on avance. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver. Cette chose n'est pas une roue. C'est un carrousel. Grâce à lui, on voyage comme un enfant sur un manège. On tourne et on tourne, et on retourne au point de départ. Ce lieu magique où on se savait aimé.
épisode fameux qui clôt la saison 1. Qui voyez-vous à l'œuvre, Emmanuel Burdeau?
Alors, c'est une très très belle scène, hein, c'est vrai. Et pour ceux qui n'ont pas la série en tête, il faut dire, je crois, que les images que fait défiler Don Draper, ce sont des images de sa famille, de ses enfants, des images de bonheur familial. Je crois qu'on l'a vu plutôt dans la saison avec un appareil, mais enfin, ces images, on ne les a jamais vues jusque-là. C'est très intelligent de nous les montrer uniquement dans ce cadre-là. Et l'une des beautés de cette scène, bon, c'est l'entrée, c'est évidemment l'entrée de cette dimension, disons, de profondeur temporelle. Mais je crois que c'est surtout parce qu'à ce moment-là, de façon un peu exceptionnelle, l'émotion est perceptible sur le visage de Don Draper. Il est en train de vendre des images de bonheur. Et au moment où il vend ces images, il s'aperçoit de leur caractère, peut-être pour une fois, non factice. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de la
scène. Et en même temps dépassé, parce que dans sa famille, ça ne se passe pas très bien. Précisément, à la fin de la saison 1, il va se séparer, pas encore, mais bientôt, de sa femme. Et c'est comme s'il y avait, au moment où il vend quelque chose, avec cette irruption du domestique, enfin du personnel, de l'intime, une espèce de confusion entre eux, et bien ce qui est le personnage de Don Draper avec le fait de vendre quelque chose. Donc il y a toujours un petit peu ce mélange entre la société de consommation et la vie personnelle, et lui, en tant que personnage, n'échappe pas à cela d'une certaine façon, Emmanuel Burdeau.
Ah non, il est même au centre de ça, puisque comme vous le dites, en fait, effectivement, ça se passe très mal chez lui, et c'est le moment où il réalise, disons, le bonheur qu'il est en train de laisser filer. Quoi. C'est-à-dire que cette scène, encore une fois, s'intéresse sans doute moins à la publicité qu'à la façon dont les images publicitaires créées, ou en l'occurrence utilisées par Don Draper, le renvoient à sa propre blessure, pour reprendre l'étymologie là qui est donnée, je crois, de nostalgie. Donc c'est ça qui est très beau, c'est là où lui-même pense avoir une fois de plus trouvé le... Parce que très souvent dans la série, 5 minutes avant une présentation, il n'a pas d'idée, donc on voit, il improvise, quoi. Donc là, cette fois encore, il s'en sort, mais il s'en sort avec le prix fort, parce que ces images, il en mesure le prix, effectivement, et ce prix, c'est un prix personnel, c'est pas juste un prix publicitaire pour décrocher un contrat de plus.
Alors Daniel Weinstock, qui est un philosophe canadien, explique que ce qui distingue Mad Men des films, des livres et des séries qui ont fait le procès d'une Amérique superficielle et consumériste, c'est que précisément cette série en comprend l'attrait. Et on n'est pas forcément contre Don Draper, on est aussi avec lui, parce que précisément lui-même est pris aussi dans la société de consommation. Il en est le prisonnier comme les autres, alors que c'est lui-même qui l'a créé, cette société de consommation.
Oui, moi ça, j'en suis bien d'accord. C'est pas une série qui se donne un sujet, enfin, regarde un sujet de l'extérieur et décide, en le maintenant si possible un peu à l'extérieur, de nous dire ses 4 vérités à propos de ce sujet. Non, c'est l'effet velours, si je puis dire, joue encore là, puisqu'il y a un enveloppement évident. C'est une série sur la fascination de la publicité, et c'est une série qui repose elle-même en très grande partie, et même au premier chef, sur la fascination et sur la recherche de la fascination. Donc les choses sont toujours ambiguës, elles sont toujours à plusieurs degrés à la fois, et je trouve que ça rend la série tout à fait passionnante. D'ailleurs, les séries elles-mêmes, évidemment, il eût été, si je puis dire, un peu malhonnête, alors que les séries sont en train de devenir un produit culturel de consommation parmi les plus recherchés, il eût été malhonnête de faire une série pour tirer à boulet rouge sur la consommation. Mmh. Je pense que les concepteurs s'en seraient tirés facilement, et nous aussi, mais du coup, on aurait ressenti les choses avec beaucoup moins d'acuité. Et de douleur aussi, il me semble.
Mais il me semble que Matthew Weiner avait voulu au départ faire un portrait, donc critique du personnage de Don Draper. Et il a rencontré, je ne sais pas si vous avez cette anecdote en tête, un de ses voisins qui est cambodgien et qui lui a raconté son histoire. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là ?
Non, ça ne me dit rien.
Donc il se rend compte, en discutant avec cet homme qui a été victime des Khmers Rouges, que finalement, il a pu se reconstruire aux États-Unis où il a immigré, que ses enfants sont allés à l'université alors que quand il est arrivé sur le territoire américain, il devait dormir dans un magasin de donuts. Et il s'est rendu compte que finalement, le rêve américain, c'est ce qu'il raconte Wiener, ça existait vraiment, que ça pouvait fonctionner, ça pouvait marcher. Et c'est un petit peu ça qu'il a souhaité faire du coup du personnage de Don Draper qui, comme vous l'avez dit, part d'une identité qui n'est même plus la sienne et arrive au sommet de la hiérarchie, de la consommation en tout cas, de la classe moyenne supérieure américaine.
Alors, je ne connaissais pas cette anecdote en effet, mais elle me fait penser à... En fait, là, je suis un peu sous le coup ces jours-ci de la découverte de Romanovs, qui est donc la nouvelle série de Matthew Weiner, qui est une mini-série anthologique, ça fait un peu jargon, mais c'est ça, qui a été produite et qui est diffusée par Amazon.
Parce que c'est pas une seule histoire, c'est une histoire par épisode.
C'est une histoire par épisode, mais c'est toujours une question de, disons, de rêve dont on hérite et d'identité plus ou moins fallacieuse, puisque c'est une série sur les descendants réels, putatifs ou fantasmés de la famille de Romanov qui a été exécutée par... les bolcheviks. Et bon, voilà, une fois de plus, c'est l'histoire de personnages qui se projettent dans un destin qui n'est peut-être pas le leur. Mais surtout, moi, ce que m'a appris cette série, que je trouve tout à fait... Bon, j'en ai vu que 3 épisodes hein, sur les 5 aujourd'hui disponibles. Et le premier peut avoir un caractère un peu dissuasif, mais j'encourage les gens à poursuivre, parce que le deuxième et le troisième sont tout à fait passionnants. D'abord, moi, j'ai compris une chose qui est une évidence, mais... c'est que Matthew Weiner, je pense, est le seul aujourd'hui à penser la série comme une forme noble, c'est-à-dire, dans les deux sens du terme, si je puis dire, à la fois comme une forme haute, et ça, il n'est pas le seul, évidemment, mais noble aussi au sens politique, au sens aristocratique, enfin, au sens social, au sens aristocratique du mot.
C'est pour ça qu'il traite d'une famille de nobles, ou de descendants d'une famille noble.
Voilà, descendants d'une famille noble, parce qu'il voit la série télévisée, il pense que la série télévisée est particulièrement vouée à évoquer des destins de type aristocratique. Dans Mad Men, c'était quand même la publicité. Mad Men, les hommes de la Madison Avenue, représentaient une forme d'aristocratie, de classe à part. Et dans les Romanov, c'est évidemment beaucoup plus manifeste. Là, ça m'a ouvert les yeux voilà, sur quelque chose qui est une évidence. Et une autre des caractéristiques de Romanov, c'est que c'est un produit de grand prestige. Chaque épisode fait 1h26 et dans chaque épisode, il y a un nouveau décor et des nouvelles stars.
Et même Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert et d'autres, Diane Lane, et des acteurs évidemment de Mad Men comme John Slattery qui jouait Roger Sterling, Christina Hendricks qui est dans un rôle principal aussi, etc. etc. Voilà, je pense que Matthew Weiner, le premier, se pense comme un seigneur. Ce qui est très intéressant parce que à mon avis... des créateurs tout à fait importants de séries télé comme David Chase, au contraire, quel que soit leur succès, continuent à se penser comme des ploucs. Hein. C'était l'obsession de Tony Soprano. Quoi qu'il m'arrive, je suis un plouc. Don Draper, quoi qu'il lui arrive, et même s'il arrive au sommet de la hiérarchie publicitaire, comme vous le disiez, il a une douleur, mais sa douleur, c'est pas que c'est un plouc. Il se pense comme un seigneur. Et la question, c'est peut-être aussi qu'est-ce que c'est qu'être un seigneur dans un monde où il y a plus de seigneurs, quoi. Et ça, c'est très particulier parce que ça veut dire qu'on considère la série télé non pas comme étant finalement le rejeton, un peu le bâtard du cinéma, mais comme étant peut-être bizarrement le représentant d'une forme d'art éventuellement en train de disparaître. Je pense qu'il y a des créateurs de séries aujourd'hui, à mon sens, supérieurs à Matthew Weiner, mais je pense qu'il est que cette question-là, il est la seule à... c'est la sienne, quoi.
Donc, pour vous, pardonnez-moi, c'est donc un film divisé en 7 saisons, Mad Men. Enfin, on est exactement dans les codes du cinéma, par les traitements des décors, par les costumes, par le développement aussi des personnages. On est dans ce registre-là.
Alors, je veux pas tenir un propos provocateur, mais je vais le faire quand même. Lui, c'est vrai, Matthew Weiner, il a parlé de sa série comme étant un grand film, mais il n'est pas le seul à avoir fait ça. Je pense que David Chase l'a fait. Si on me demande mon avis, je pense pas du tout, et même pas une seule seconde, qu'en termes de mise en scène, on soit à la hauteur des mélodrames de Douglas Sirk, ou des mélodrames de Minnelli, ou des mélodrames d'autres cinéastes.
Alors il y a quand même Barbet Schroeder qui a réalisé l'un des épisodes les plus célèbres. Il faut raconter que c'est pas Matthew Weiner qui réalise l'ensemble de ces épisodes.
Non, bien sûr. Je pense qu'on, quelle que soit par ailleurs l'admiration que j'ai pour Barbet Schroeder, et je pense qu'il serait le premier à en convenir, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais je pense surtout que c'est pas le problème. Voilà. Je pense que le problème de la série, c'est de mimer ce cinéma-là et de nous donner à réfléchir sur ce que ce mime veut dire. Voilà. Mais si on me demandait au détour d'une conversation si je préfère celui par qui le scandale arrive de Minnelli ou Imitation de la vie de Sirk à un épisode de Mad Men, au strict point de vue de la mise en scène, et pour moi, la réponse est vite tranchée. Mais c'est une série qui est habitée par une aspiration que je trouve bouleversante, une volonté de retour, hein, comme il est dit dans la scène du carrousel, une volonté de retour à une forme d'art. Et voilà, on sait bien que même si on n'égalise pas ce vers quoi on veut revenir, l'aspiration reste remarquable en elle-même.
Est-ce que, du coup, quand il est venu en France au séminaire que vous avez organisé, il vous a parlé de son rapport au cinéma européen, qui est apparemment sa grande référence, peut-être même encore plus que Douglas Sirk, parce qu'il a expliqué que si ses personnages sans doute regardaient les films de Sirk, lui-même ne le regardait pas forcément tellement, et qu'il regardez plutôt Chabrol, par exemple. Bon, il y a aussi Hitchcock, mais enfin, ça, c'est plus évident. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur son rapport au cinéma européen, voire français ?
Bon, alors, évidemment, Hitchcock, c'est évident parce que le générique de la série a une double référence très claire à Vertigo pour la chute et au générique de La mort aux trousses pour les lignes. Mais en effet, et je l'indiquais d'ailleurs très brièvement tout à l'heure, avant de pouvoir monter sur scène, si je puis dire, on a longuement parlé des bonnes femmes, parce que je m'intéresse beaucoup à Chabrol. Alors là, je me souviens plus maintenant, mais ce qu'il avait à dire des bonnes femmes était éblouissant. C'est-à-dire qu'il en connaissait tous les arrière-plans et tout. Je dirais, on avait notamment un petit désaccord, si je puis dire, sur la fin des bonnes femmes, puisqu'on a l'impression que l'image va redémarrer, que l'histoire va redémarrer, qu'une nouvelle victime va arriver. Le film se termine sur un plan de boule à facettes. Et il avait une autre lecture que la mienne, je me souviens plus comment. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il était, de ce point de vue-là, alors même qu'on pourrait penser que disons un critique français connaît mieux Chabrol que lui, il m'a vraiment beaucoup beaucoup impressionné. Il est pas le seul d'ailleurs, hein. C'est étonnant, Les Bonnes Femmes, c'est un film très important. James Gray en parle beaucoup. Je pense que ce qui l'a intéressé évidemment dans Les Bonnes Femmes, c'est les personnages féminins. Ce sont ces personnages féminins qui, il faut se souvenir que, enfin, moi je m'en souviens pas, mais je le sais, que Les Bonnes Femmes est quand même un film qui a fait les gens ont cassé les fauteuils dans les salles parce qu'ils trouvaient que les personnages féminins étaient stupides. Et je pense que cette apparence de stupidité l'intéressait aussi énormément. Et en effet, c'est vrai que on avait discuté aussi du cinéma d'Antonioni. Et entre autres choses, de la dernière scène, autre dernière scène, qui est celle de Profession Reporter, où il y a ce très célèbre mouvement d'appareil qui passe à travers une grille. C'est souvent le cas, de toute façon, avec ces Américains, si je puis dire, qui donnent l'air d'être des entrepreneurs de spectacle. Mais quand on discute avec eux, on voit que ce sont des gens qui rigolent pas, pour le dire.
Ouais. Et alors, ce qu'il garde de ce cinéma européen, il a dit, je crois que c'était en particulier les silences.
Oui, ça, David Chase disait la même chose, hein, que c'était le cinéma, et puis on en parlait lors de l'émission l'année dernière, que c'était le cinéma européen, la modernité européenne, Bergman, Antonioni et les autres, qu'il avait encouragé à finir les épisodes sur des silences, oui, à ne pas faire les finales épisodes sur des interrogations dramatiques, mais sur du rien. Et ça, effectivement, Matthew Weiner, oui, je pense que c'est très, très, c'est très important, d'une certaine façon, c'est presque plus, oh, je vais dire peut-être plus important pour eux que pour nous, parce qu'on est peut-être plus familiers, mais oui, bien sûr, et de très très nombreux épisodes de Mad Men se terminent de la même façon, assez souvent, et c'est vrai que ça fait partie des fins que moi j'aime le plus, bien qu'elles soient très tristes. On voit Don Draper qui rentre chez lui et qui retrouve cette famille qui offre une image harmonieuse alors qu'en fait tout va mal, soit au contraire, il y a de très très nombreux épisodes qui se terminent par lui s'asseyant soit sur la marge d'un escalier, soit devant une porte, voilà.
Où va pour vous Matthew Weiner maintenant avec bon, on a dit les Romanoff, mais on a quand même l'impression qu'il a perdu un petit peu ce qu'il avait fait la subtilité de Mad Men en 10 secondes.
Bah moi je suis pas tout à fait d'accord. Cette série m'intéresse énormément, les Romanoff. Voilà, je suis en train de la regarder. Je pense qu'il essaye de résister à la tentation de faire du cinéma. Voilà, à mon avis c'est ça son truc, et je pense qu'il a raison. La question c'est ce qu'il va faire après les Romanoff, parce que c'est seulement 8 épisodes, et en effet, est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça à produire une espèce des objets de prestige cinématographique entre guillemets au sein de la télévision? Ça c'est compliqué, et c'est la question de l'avenir des séries en général, c'est-à-dire que ça enfle, est-ce que ça peut continuer d'enfler longtemps?
Merci beaucoup Emmanuel Burdeau. Vous étiez en duplex de France Bleu à Caen. Je remercie chaleureusement les équipes techniques qui ont permis qu'on s'entende, qu'on se parle aujourd'hui dans cette émission. On peut signaler au passage parmi vos ouvrages celui que vous avez consacré aller à Breaking Bad, aux Prairies Ordinaires. C'était en 2014. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin, Laurence Malonda et Jacques Hubert. Demain, nous revenons sur les personnages de Mad Men et sur la notion d'art de vivre dans cette série. Ce sera avec l'écrivaine Nathalie Azoulay. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec la poésie et Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cécile Coulon est une jeune, très jeune, romancière dotée de quelques prix France Culture. France Culture, pour Le Roi n'a pas sommeil. Les Ronces est son premier livre de poésie, de poèmes. Oui, de Les Ronces. On se remet de tout, mais jamais à l'endroit. Les Ronces commence par une citation amoureuse de Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre, et puis tout de suite après, en première page, « J'aimerais vous offrir des frites. » Ce qui n'a pas manqué de forcer notre sympathie, « J'aimerais vous offrir des frites. » C'est un poème ? Oui, c'est une belle histoire. Ça a commencé à cette heure si particulière du soir où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sorti sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Personne ne marchait dans les rues qui suintaient jusque sur la place en contrebas où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans, mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet, la nuit, la pluie, la chaleur. Oui, c'est un peu un roman. Non, c'est un poème, comme les poèmes de Carver, Raymond Carver. Et puis, un homme trempé jusqu'aux os est arrivé, ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. J'avance dans le poème. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixé avec des yeux plus ronds que des becs de flamant rose. Et puis, le poème continue, le type a bégayé, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis, finalement, je ne sais pas quoi vous dire parce que je sais qui vous êtes. Il a reconnu la romancière, la jeune romancière. Quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard, déjà noyé de solitude et de nuits bizarres. Eh ben, il lui a payé ses frites. « Je voudrais, dit-elle en conclusion de la nouvelle poème, je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là, devant cette place, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. » « Ma force, dit un autre poème, ma force, c'est d'avoir enfoncé mon poing sanglant dans la gorge du passé. Ma force n'a pas d'ailes, ni de griffes, ni de longues pattes. Ma force a construit un peu d'humanité. Ma force a toujours soif. Ma force n'est pas fidèle. Pourtant, ma force n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que moi. Ma force, c'est d'avoir pendu un enfant roi à la branche du succès. Parfois, ma force étouffe ce qui l'empêche d'avancer. Ma force est cruelle. Elle manque de sommeil. Elle se nourrit d'orgueil, de turbulence. Ma force n'a aucun sens. Elle n'a jamais cessé de se débattre. Ma force, c'est d'avoir compris la beauté des montagnes. D'avoir dormi dans le ventre des forêts. Ma force a mangé les entrailles de la terre, les vents glacés qu'il faut combattre. Ma force souffre en silence, ma force m'accompagne. Elle m'a si souvent ramassé, ma force est légère. Ma force ne m'oublie pas quand je crois l'avoir oubliée. Ma force n'est pas un don du ciel, ma force n'est pas un don du sang. Elle a grandi simplement et ne s'effondre jamais. Un jour, ma force n'aura plus la force de venir jusqu'à toi. Il faudra me porter. Il faudra m'attraper, il faudra me montrer les évidences que je ne vois pas. Ma force est fragile, Ma force ne demande rien. Ma force a toujours faim. Ma force a toujours froid.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Cécile Coulon.